vous m'entendez? Ok, parfait, merci. Ils me disent de vous rappeler que c'est interdit de boire des cafés ici, donc je vous fais cette première information. Je vais démarrer cette deuxième session au titre « Faire face à la perte irréversible du patrimoine ». Et pour introduire cette deuxième session, je voulais faire référence à une conception, un concept qui a été développé par le professeur François Host et qu'il définit notamment comme « nouvel contrat social planétaire ». Aux yeux du professeur Host, les contrats sociaux traditionnels, c'est-à-dire les modèles d'organisation du corps social sur lesquels s'effondrent les constitutions actuelles, les contrats sociaux qui ont été conceptualisés pour la première fois par Hobbes, Locke et Rousseau parmi d'autres, et qui s'effondrent sur l'idée d'un individu libre et égal dans l'État national, seraient en train d'accomplir une mutation envers ce qu'il définit comme nouvel contrat social planétaire. Et on voit déjà l'interaction entre dimensions culturelles et naturelles, vu que la planète devient un élément indissociable du contrat social. Un des axes principaux sur lesquels s'effondrerait cette mutation serait une nouvelle approche au temps de la part du corps social. C'est-à-dire que si les contrats sociaux traditionnels s'effondrent sur l'idée du présent, donc des « liket nunc », les nouvelles contrats sociaux planétaires commenceraient à prendre en compte l'avenir dans sa sphère. Et cette considération implique que les ressources qui sont à disposition actuellement, les ressources aussi bien culturelles que naturelles, doivent être également accessibles aux générations futures. D'où la possibilité de concevoir, envisager une approche unitaire au patrimoine culturel et naturel dans une logique d'équité intergénérationnelle. Et en ce sens, ce sont ces deux éternités, et je cite une phrase de Diderot que j'ai découvert dans l'ouvrage du professeur Schnapp, ce sont ces deux éternités, donc la succession des générations et l'éternité de la nature, qui doivent être protégées face à la perte au risque de la perte irréversible du patrimoine. Donc, se pose à cet point la question de quels sont les moyens qui ont été envisagés pour faire face à ces risques de cette perte et en quelle mesure ces moyens témoignent elles-mêmes d'une certaine interaction entre dimensions naturelles et culturelles. Donc, je vous présente les intervenants, notamment le professeur Alain Schnapp, après avoir obtenu le titre de docteur en histoire. Il est devenu professeur d'archéologie à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, ancien directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art. Il est auteur d'un récent ouvrage monumental sur l'histoire universelle des ruines. Merci, monsieur. Le professeur Laurent Néret, après avoir obtenu le titre de docteur en droit privé, il est devenu professeur de droit privé à l'Université de Versailles et d'Artois. Il est actuellement le président du cabinet du président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius depuis 2018. Et il a dédié sa vie à la recherche en matière du droit de l'environnement, de la responsabilité climatique et du préjudice écologique. Donc, je vous laisse la parole.
Merci. Donc, merci d'être là. Merci à ceux qui ont organisé cette rencontre. Et merci à M. Néret qui s'est prêté à un certain nombre d'échanges qui nous ont permis de définir nos sujets. Je vais assez rapidement, dans une vingtaine de minutes, parcourir avec vous un chemin historique qui est celui du sentiment de la perte et du danger qui sourd de la destruction, du rapport qu'il est nécessaire d'établir avec les ruines quand tout s'en est allé, quand la catastrophe a tout digéré. Il reste quand même quelque chose, et ce quelque chose, ce sont les ruines. Mais ces ruines ne sont pas un donné, il faut les construire. Donc, dans un premier temps, je vais vous citer quelques textes qui démontrent l'angoisse que provoque la chute des villes quand elle est associée à celle de la fuite des dieux qui laissent les cités abandonnées de Mésopotamie ou d'Israël. Le second est lié au sens des traces. Ce sens des traces, il naît justement de l'observation du sol et de la tentative de reconstitution du passé. Et cela débouche, ce sera mon troisième point, sur ce que j'appelle l'éthique des ruines, c'est-à-dire qu'on construit les ruines pour entendre ce qui s'est passé, pour essayer de sauver ce qui peut l'être, en payant à la fois un tribut au patrimoine local et à ce qui serait, et ce qui a été abondamment présenté ce matin, un patrimoine universel. ce que vous avez entendu il y a une minute sur le concept de double éternité qui était si cher à Diderot. La lutte entre la mémoire et l'oubli, je la retrouve dans un texte magnifique de Joseph Roth, qui est le fameux auteur et autrichien de la marche de Radetzky, qui était un des phares de l'intelligence européenne entre les deux guerres, et qui a couvert pour un journal berlinois l'actualité française. Et il a écrit une série de descriptions des villes du littoral, et en particulier d'Arles. Et ce qui est plaisant dans ce texte de Joseph Roth, c'est quand il vous dit que la ville entière a quelque chose de la fraîche et ancienne sérénité d'un cloître et doit beaucoup au principe végétatif et à la sérénité du marbre. Et donc c'est cette association entre l'un et l'autre qui sont la part de l'émergence d'une ruine qui n'est pas seulement monumentale. L'histoire ne se construit pas seulement sur des progrès, je dirais, mais parfois sur des retours en arrière. Le petit texte que vous avez sous les yeux est celui d'un savant allemand émigré en 1933 à Princeton, William Eckscher, qui est considéré comme un des meilleurs spécialistes des ruines de Rome à l'époque médiévale. Mais regardez ce que dit sa définition. Les ruines, telles que nous voulons les entendre, sont des documents historiques et intellectuels. Une terre sans histoire ne peut donc laisser aucune ruine. Nous devons en conclure, il n'y a pas de ruine africaine, car il n'y a pas d'histoire africaine, qui, par une nécessité interne, s'emploierait à fournir aux générations futures une valeur unique et bien documentée. Donc cet ethnocentrisme, vous l'avez sans doute entendu il y a quelques années, quand une déclaration de Dakar du président Sarkozy défrayait la chronique. Donc nous sommes à un au-delà qui est le lien que nous tissons entre ce qui est très loin, ce qui est très proche, dans le temps ou dans l'espace. Regardez par exemple dans le monde mésopotamien. Vous voyez ces inscriptions sur des petites terres cuites. Et vous avez en gros une inscription paléo-acadien de la fin du 3e millénaire, du début du 2e millénaire. Et puis ensuite, tout en bas, sur votre droite, une petite traduction. Et cette traduction, elle vous dit que ces tablettes ont été trouvées dans un endroit bien précis, qu'elles se réfèrent à une statue qui se trouve dans un temple. Il y a donc déjà toute une idée de la réception du passé comme un des moyens de communiquer avec l'absence. C'est ce que Christophe Pomian, qui a publié cette magnifique histoire des musées, mais qui est aussi l'inventeur du concept de sémiophore, c'est-à-dire d'objets qui portent sens, a théorisé. Regardez, par exemple, les lamentations sur Ur et Sumer. Vous voyez combien la douleur de la perte, la douleur de la séparation est poignante. Pour dégrader les jours, pour que les règles tombent en oubli, la tempête, tel un ouragan, engloutit tout, pêle-mêle. Que les mêles, les traditions de Sumer seraient avilies, que le règne propice s'évanouirait, que les villes seraient détruites, les maisons démolies, que les parcs à bestiaux seraient jetés à bas et les bergeries rasées, qu'il n'y aurait plus de bœufs dans les parcs à bestiaux, que ces moutons ne se multiplieraient plus, ces bergeries, plus dans les bergeries, que les canaux chariraient des eaux saumâtres, que sur les bons champs croîtraient les herbes des prés, que dans la steppe pousseraient des herbes. Lamentation, et ça continue. C'est-à-dire que tout, la victoire des ennemis sur la ville n'est pas seulement une victoire militaire ou une victoire politique, c'est l'abolition de l'ordre de la culture. Tout s'en va, aussi bien les relations qu'entretiennent les hommes entre eux, la mère avec son enfant par exemple, le mari avec sa femme, ou l'ensemble des biens qui permettent à la cité de survivre. Et pourquoi la cité est celle-ci si triste? Parce qu'on a cassé, on a abîmé le paysage, on a détruit les canaux, mais aussi que les dieux s'en sont allés. Et ça, pour les Mésopotamiens, c'est terrible. On décrète au dieu de cette ville une autre demeure, Chacun d'eux se tient à l'écart. Tous les pays ennemis poursuivent ces gens, ceux qui n'ont pas encore été exterminés. Ils arrachent les immenses arbres à la racine, se déchaînant contre les forêts. Là encore, la dimension écologique me paraît extraordinaire. Après avoir dépouillé les vergers irrigués de leurs fruits, ils enlèvent les bourgeons, ayant inondé les moissons encore en épi, ils diminuent le rendement des grains. Donc vous voyez, l'homme est inséparable dans ses constructions, dans ses aménagements de la nature. On détruit les portes de la ville, on détruit les murailles, mais aussi on s'en prend à tout ce qui peut rester. Et on retrouve dans la tradition judéenne, avec les destructions des villes dans cette d'Édom, une part de cet héritage, mais sous un terme un peu différent qui me paraît intéressant. De génération en génération, la ville sera détruite. Jamais plus personne n'y passera. La hulotte et le hérisson l'occuperont. La chouette et le corbeau y demeureront. On tendra sur elle le cordeau du chaos et le niveau du vide. Est-ce que vous comprenez cette expression ? Ça veut dire que Dieu s'empare des techniques de construction, celles qui permettent d'édifier des monuments mémorables, le niveau, le cordeau, mais pas pour construire, pour détruire. Donc l'éradication est totale. Dieu, en quelque sorte, punit les hommes en détournant les techniques dont ils se font fort et dans lesquelles ils vivent. Les satyres y habiteront, donc c'est vraiment le retour à la nature atroce, à la sauvagerie. Tous ces chefs seront réduits à rien. Dans ces plaies monteront les ronces, dans ces forteresses les orties et les épines. Elle sera un séjour de chacal, un parc à autruches, etc. Donc vous voyez que l'idée de la relation intime entre le passé des hommes et leur présent, entre ce passé entendu comme une communion entre les créations architecturales et l'espace, eh bien, c'est vraiment ce qu'il y a au début du sentiment de la perte, ou du sentiment de l'oubli, de celui de la destruction. Et donc, regardez dans la tradition chrétienne, par exemple, vous savez, quand on regarde tout ce qui se passe dans la Palestine et la Judée, il y a une idée de christianiser ces paysages qui sont à l'origine des paysages de la Bible ou des Mésopotamiens, donc judéens ou mésopotamiens. Et Paulin de Nol, un des pères de l'Église, a cette réflexion à propos de la basilique de l'Ascension qui doit nous faire méditer. Dans la basilique de l'Ascension, ce lieu seul d'où le Seigneur s'éleva dans un nuage et d'où il prit captive dans sa chair notre propre captivité, aucun marbre ou pavement n'a jamais tenu. Et le sol lui-même a rejeté tout ce que la main de l'homme a tenté d'y ajouter dans les buts de l'embellir. C'est pourquoi, sur tout l'espace de la basilique, le sol demeure vert sous forme d'un gazon, et le sable conserve bien visible et en même temps accessible pour ceux qui l'honorent la trace du pied divin dans la poussière marquée par Dieu. Donc ça, c'est un monitum envoyé à tous les restaurateurs, à tous ceux qui veulent faire mieux, ceux qui veulent faire protéger, en vous disant qui énonce que c'est la terre elle-même qui garde la trace matérielle et que l'aménager peut conduire au drame. Et regardez ce qui est arrivé en Arabie Saoudite à la Kaaba ou même ce qui se passe autour du mur des Lamentations à Jérusalem. Donc ce problème fondamental, il est lié au sentiment de la perte et à celui, qu'est-ce qui permet de lutter contre la perte ? La perte, c'est le souvenir. Et si vous allez en Chine, donc je vous fais un parcours qui n'est pas normé, hein, au XIe siècle, vous trouvez sous la plume d'un érudit des réflexions qui sont exactement celles des précurseurs de la notion de patrimoine en Europe au XVIIe siècle. Celle de Cassiano del Pozzo, ou celle de Nicolas Fabry de Peresque, ou de leurs émules scandinaves ou britanniques. Uyong-Xiu est donc écrit ceci en préface à un de ses grands catalogues d'inscriptions. Craignant que les copier, les inscriptions directement, puissent générer des erreurs, j'ai décidé de monter les estampages eux-mêmes et de les relier ensemble. La collection est classée selon un ordre qui lui est propre et non selon la date d'origine de chaque inscription. du fait qu'il existe autant de pièces et que je continue d'en acquérir de nouvelles, j'insère chacune d'entre elles dans la compilation en suivant son ordre d'arrivée. Mais si vous regardez la préface par le comte de Caylus de son manuel d'antiquité, il dit exactement la même chose à quelques siècles de distance et à quelques milliers de kilomètres. Donc cette idée qu'il faut privilégier la transmission, c'est l'une des voies, je dirais, du métier de conservateur qui vous réunit ici, mais c'est une des voies de du respect moral et intellectuel qu'il faut dédier aux vestiges du passé. Regardez cette réflexion qui semble à nouveau annoncer l'ère des collectionneurs. Sachant qu'une collection aussi large que celle-là est destinée à être dispersée, j'ai sélectionné les informations essentielles qui concernent les inscriptions. Et je les ai intégrées dans un catalogue séparé de colophons où j'ai enregistré les faits qu'ils contiennent, et qui peuvent être utiles à corriger la tradition textuelle historique. Mon seul espoir est qu'ils puissent être transmis aux érudits du futur comme une contribution au savoir. En quelque sorte, ce texte dit « s'il faut s'y résigner, tout disparaîtra un jour ». Mais ce qui ne disparaît pas, c'est l'effort de curiosité et l'effort technique qui permet de maintenir la mémoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce texte fait penser au fameux texte de Diderot, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, quand Diderot dit « qu'est-ce qu'une ruine ? Je regarde le temps qui passe, je vois l'éternité, je vois mon temps passer ». Eh bien, Ouyang-Tsiu fait allusion à sa propre expérience. Quand j'étais enfant, j'avais une copie de cette inscription grâce à laquelle je m'exerçais à la calligraphie. À cette époque, la gravure était complète et en excellente condition. 20 ans plus tard, quand j'obtins cette copie, les caractères gravés étaient gravement détériorés et incomplets à ce qu'on voit ici. Ému par le fait que toutes les choses matérielles sont promises à une ruine finale, et réalisant que même la pierre et le métal, malgré toute leur solidité, ne sont pas éternels, je décidai de collecter et de relever les inscriptions qui nous sont parvenues des temps anciens. Donc, la protection du patrimoine, ce n'est pas seulement la curiosité, c'est le respect qu'on lui voue. Et vous trouvez ce poème que je n'ai pas le temps de commenter, mais d'Ozone, donc un poète latin mais gaulois, et qui dit « Qui repose ici ? Marius, Marcius ou Metellus ? Personne ne peut le savoir, à des lettres certaines. Les lettres arrachées gisent, leurs lignes mutilées, et dans la confusion des caractères, tout sens a disparu. » Donc, la relation au passé, c'est un effort d'éthique et un effort d'intelligence. Et Lucrèce l'a peut-être exprimé mieux que quiconque, quand il conclut son fameux poème, « Par ce fiat mundi confusa ruina », le monde ne sera plus qu'une ruine confuse. On a beau essayer de ralentir la destruction des choses, il en sera quelque chose. Et pour rester sur une note un peu plus optimiste quand même, et pas vous désespérer, je vais vous présenter deux ou trois citations de l'homme qui a dominé l'esthétique des ruines en Occident et qui est Chateaubriand. Des peuplades de l'Orénoque n'existent plus. Il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres, comme la griffe d'Agrippine gazouillait des mots grecs sur les balustrades des palais de Rome. Donc même si les hommes ne s'occupent pas de transmettre, la nature elle-même peut transmettre. Et Chateaubriand l'exprime d'une façon qui me paraît très convaincante. Il y a deux sortes de ruines, l'une ouvrage du temps, l'autre ouvrage des hommes. Les premières n'ont rien de désagréable parce que la nature travaille auprès des arts. Font-ils des décombres ? Elle y sème des fleurs. En trouvera-t-il un tombeau ? Elle y place le nid d'une colombe. Sans cesse occupée à reproduire, elle enveloppe la mort des plus douces illusions de la vie. On pourrait continuer longtemps dans ce traîne de Chateaubriand. Mais j'étais en Chine, je vous emmenais en Chine il y a quelques minutes, et bien nous voilà au Caire, au XIIe siècle. Et c'est la réflexion d'un médecin, al-Baghdadi, sur à quoi servent les pyramides. Et quand il réfléchit à ces pyramides, et bien là encore, on a l'impression qu'il a lu Ouyang-Tsiu et que même il annonce Péresque ou Montfaucon. En effet, quand on se livre à de profondes réflexions sur la construction des pyramides, on est forcé de reconnaître que les plus grands génies y ont prodigué toutes leurs combinaisons, que les esprits les plus subtils y ont épuisé les efforts que les âmes les mieux éclairées ont employés avec une sorte de profusion, en faveur de ces édifices, tous les talents qu'elles possédaient et qu'elles pouvaient appliquer à leur construction, et que la plus savante théorie de la géométrie a fait usage de toutes ces ressources pour les édifier. Cette idée qu'il y a quelque chose dans les ruines qui les transcende, elle est si forte que vous la retrouvez exprimée chez Diderot, qui s'élève contre notre culte des ruines. Une autre chose qui ajouterait encore à l'effet des ruines, c'est une forte image de la vicissitude. Et ces puissants de la terre qui croyaient bâtir pour l'éternité, qui se sont fait de si superbes demeures, et qui les destinaient dans leur folle pensée à une suite ininterrompue de descendants, héritiers de leur nom, de leur titre, de leur opulence, il ne reste que leurs travaux, de leurs énormes dépenses, de leur grande vie, vu que des débris qui servent d'asile à la partie la plus indigente, la plus malheureuse de l'espèce humaine. Ça, c'est l'apparition de la critique sociale des ruines qui rejoint l'éthique des ruines. Et pour terminer un clin d'œil, Louis-Sébastien Mercier, des plus brillants polémistes du XVIIIe siècle, qui s'en prend aux architectes. L'être le plus dangereux pour le gouvernement est donc un architecte, pour peu qu'il ait un transport au cerveau. Et tout monarque ami de son peuple doit regarder un tel artiste comme spoliateur du trésor royal et des deniers de ses sujets. Les rois, enfin, n'ont point de plus grands ennemis. Ce sont les architectes de Louis XIV qui ont tué sa gloire. Et je vous laisse méditer cela. Et M. Néret va vous apporter d'autres éléments pour l'intelligence de cette question de la destruction.
Écoutez, je suis ravi d'être ici. Bonjour à toutes et à tous. C'est très courageux aux organisateurs d'inviter un juriste, professeur de droit. Je vais tenter, même si j'ai apporté un code ici, n'ayez pas peur de ne pas vous faire une litanie de lecture d'articles. Ce qui me semble utile, c'est pas tant de vous asséner de dispositions juridiques sur la question de la prise en compte de la perte en matière environnementale par le droit. Je voudrais en fait, et c'est pour ça que j'ai accepté d'être ici, et amitié avec Vincent Négri, j'ai été ravi d'échanger avec le professeur Schnapp pour préparer ce moment. Mon idée était un peu de croiser à la fois le droit en mouvement et puis l'expérience personnelle qui est la mienne, non pas pour faire du centrisme, mais l'expérience personnelle de chercheur, parce que j'ai pu assister à la transformation de la prise en compte des atteintes à l'environnement, des atteintes au vivant par le droit. En 1999, j'inscris mon sujet de thèse sur la réparation du préjudice. Et un peu comme le photographe qui n'a pas prévu la scène qui va se dérouler devant lui et qui va faire un cliché qui le suivra ensuite toute sa vie, dont il devra épouser la cause finalement. Et voilà ce qui m'arrive en 1999. Je viens d'inscrire ce sujet de thèse. Et un pétrolier affrété par le groupe Total, qui s'appelle l'Erika, sombre au large des côtes bretonnes, quelques jours avant Noël. Le jour de Noël, le matin de Noël, toutes les chaînes de télévision, on regarde encore la télévision à cette époque, montrent des scènes de désolation. Les côtes françaises sont souillées par du pétrole lourd, du pétrole brut, et c'est toute une nation qui pleure. Vous voyez les maires des petites communes qui pleurent, vous voyez les enfants, vous voyez des personnes qui viennent de toute la France pour tenter de nettoyer ces plages. Le moment n'est pas anecdotique, ce jour de Noël aussi, parce qu'on est au large du rail d'Ouessant et que c'est une période de tempête. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que dans une thèse qui dure en droit 5 ans, je ne peux détourner le regard et ne pas m'interroger sur la réparation du préjudice écologique, c'est-à-dire la réparation des atteintes à l'environnement en tant que telle, dans cette affaire, mais dans d'autres affaires également qui peuvent être moins spectaculaires. Et alors, je voudrais donc évoquer ce point avec vous, ce que j'appelle la réparation des pertes passées, autrement dit une histoire de la réparation du préjudice écologique, bien entendu par le droit. Ce sera mon premier point. Puis le second point, autre expérience qui est la mienne plus tard, je me rends compte qu'après cette réparation au sens civil, Une autre question se pose, qui est celle de la prévention des pertes futures irréversibles, celles dont on ne peut pas se permettre qu'elles arrivent, l'atteinte à l'habitabilité même de la planète, et qui recourt nécessairement au déclenchement des outils du droit pénal, le droit pénal qui en creux protège les valeurs supérieures de notre société. Et c'est là que me vient l'idée de prolonger les crimes contre l'humanité et le crime de génocide par un crime d'écocide qui ensuite aura un certain ou moins mauvais succès. Chacun le verra comme il le souhaite. Voilà comment, en travaillant notamment avec Interpol, j'ai pu être un peu le père, le grand-père de cette notion qui vise ici à la prévention des pertes futures. Donc deux parties ici, très traditionnelles en droit, non sans une forme d'avertissement. Tous et toutes, nous avons des a priori sur ce qu'est le droit. En tous les cas, la manière dont je vais faire ma déclaration d'intérêt, celle dont je vais aborder cette matière, c'est que le droit est une technique. C'est une technique à proprement parler, avec des logiques. La logique notamment pyramidale, cette image qui est une image qu'on présente dès les premières heures de droit à la faculté. Pyramide, ce que ça signifie ? Ça signifie la hiérarchie. Une loi peut être votée par le Parlement, par quiconque. Elle peut faire beaucoup, mais elle ne doit pas violer la loi des lois, qui est la Constitution. Cette Constitution que le peuple constituant s'est donnée. Par exemple, vous ne pouvez pas remettre en cause la forme républicaine de notre nation. Et pour ça, il y a un gardien qui est juste à côté, au Palais Royal, le Conseil constitutionnel, si la ligne est rouge est franchie. Donc, je vais vous dire que le droit est une technique. C'est une technique qui permet la sécurité juridique, la prévisibilité juridique. On peut être d'accord ou pas, mais en tous les cas, c'est un premier point. Mais le droit est également une éthique, c'est-à-dire qu'il est porteur d'un certain nombre de valeurs, parce que c'est une science humaine et sociale qui, bien entendu, ne vit pas d'une manière, dans l'Empire et Céleste, détachée des réalités contextuelles, sociales, culturelles. Et on parlera aussi beaucoup du modèle de la nature qui peut être variable dans le monde occidental ou dans d'autres sociétés de populations autochtones ou bien dans d'autres régions du monde. Et ce sera important, je voudrais vous dire, et c'est l'aspect relativiste qui peut être le mien, mais un relativisme universalisé, c'est-à-dire que le relativisme, sous couvert d'avoir aussi des valeurs universelles, la valeur universelle étant la protection des intérêts fondamentaux, que notamment l'intérêt fondamental de la préservation du vivant et de sa pérennité. Donc, voilà un premier point. Alors, j'évoquerai à chaque fois ces questions de valeurs, et quand on est juriste et qu'on fait du droit de l'environnement, on ne peut pas ne pas travailler sur la dimension philosophique, sociologique, économique. Et très tôt, dans les travaux sur le préjudice écologique, je n'ai pu ne pas travailler et constituer des équipes dans lesquelles il y avait un économiste, des anthropologues, des philosophes, des juristes, des praticiens, des juristes aussi de différentes régions du monde. Alors, sur la réparation des pertes passées, la tradition du droit, c'est que le droit implique une responsabilité tournée vers le passé. Le droit regarde le passé et prend en compte ce passé de différentes manières. En tous les cas, le préjudice en est une. On répare le préjudice depuis toujours, depuis d'ailleurs la loi du talion, qui est une loi qu'on présente souvent comme une loi injuste, mais en réalité c'est un gain de justice, parce que œil pour œil, dent pour dent, c'est un gain de justice parce qu'il y a une proportionnalité entre la perte et la réparation. Auparavant, les lois injustes et les lois iniques, c'est qui vole un œuf vole un bœuf, et alors là, la peine de mort ou la main tranchée. Donc il y a une forme de progrès. Alors, dans cette question du préjudice écologique, en France, avant le naufrage de l'Erika, il n'y a pas de prise en compte des atteintes à l'environnement pour elles-mêmes. Je m'explique, lorsqu'il y a une pollution. Il y a eu l'affaire de la Moncocadis, par exemple, d'autres pollutions maritimes, mais aussi d'autres pollutions industrielles. Et dans ce cas, c'est seulement les atteintes économiques comme les pertes économiques liées au fait qu'un restaurateur n'a pas pu pendant un certain nombre de mois pratiquer sa profession, des pertes économiques liées au fait que les pêcheurs n'ont pu également vendre leur pêche, la perte d'image de marque également. Donc là, on est davantage dans un préjudice qu'on peut qualifier de morable. La perte de l'image de marque d'une région qui va aussi avoir une chute de la fréquentation pendant un certain nombre de mois. Et vous pouvez aussi avoir le préjudice moral des associations. Je me souviens, pendant ma thèse, il y avait une seule décision de justice à citer. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus. C'est l'affaire dite du balbuzard pêcheur, où une association de défense des oiseaux avait pu obtenir un préjudice moral, une somme d'argent pour la destruction du balbuzard pêcheur que l'on voit en réserve de Scandola en Corse, qui avait été tué par un braconnier illégalement. Donc on est en 1999, le préjudice écologique n'est pas réparé. Ce qui signifie quand même que la valeur incommensurable de l'environnement, le fait de ne pas pouvoir chiffrer combien vaut un écosystème, combien vaut une espèce en tant que telle, des oiseaux ont été mazoutés, des espèces ont disparu des îles aux oiseaux, pendant plusieurs années il y a eu des bouleversements écosystémiques sur l'estran, c'est-à-dire cet espace laissé libre au moment des marées hautes et marées basses, et ça n'a pas de prix. Pourquoi ? Parce que le Code civil en 1804, on est en 2024, quand Napoléon fait rédiger le Code civil, il y a une disposition très célèbre qui est rédigée de cette manière. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage. Vous voyez bien qu'il faut une victime dotée de la personnalité juridique. L'environnement n'est pas une personne dans la culture occidentale et assez rarement dans d'autres cultures. Et alors, vous voyez comment ce qui n'est pas une volonté d'exclure la nature du droit, c'est un état de fait, parce que en 1804, cette question-là ne se pose pas. Je voudrais mettre ça, le dire de manière forte. C'est une conséquence d'un droit qui est un droit contextualisé. Donc vous voyez comment cette exigence d'atteinte à autrui est un caractère dirimant pour la réparation du préjudice écologique. Et qu'à l'époque, on se place aussi dans ce que philosophe de la nature que je vous encourage à lire, qui s'appelle Baptiste Morisot, qui a eu à travailler sur ces questions, ce qu'on évoque ensemble, d'obsession statutaire. L'obsession statutaire, c'est cette idée selon laquelle le statut de la nature résoudrait les maux, M-A-U-X, qui touchent l'environnement. À l'inverse, ce serait à l'origine des maux. Je m'explique. Dans nos sociétés occidentales, l'environnement est un objet. Dans d'autres sociétés, l'environnement est un sujet. Et pour certains activistes, ou même dans une idée très théorique, le fait de doter la nature de la qualité de personne lui permettrait de la protéger davantage en droit. Alors il y a du vrai et du faux dans chacune de ces deux positions. C'est un positionnement qui est un positionnement appuyé sur la réalité. Je m'explique. La Cour de justice de l'Union européenne, la Cour qui se trouve à Luxembourg et qui traite des contentieux entre les États et les parties. La Cour a condamné la Pologne qui autorisait des destructions de sa forêt, qui est une forêt primaire, la Białowieża, sur le fondement des devoirs de l'État de protéger la nature et de protéger la forêt. À aucun moment, il a fallu reconnaître la qualité de personne à cette forêt pour qu'elle soit protégée par le droit, que l'on appelle alors un droit objectif. À l'inverse, en Équateur, dans la constitution équatorienne, la Pachamama, la nature est reconnue sujet de droit. Beaucoup d'activistes disent qu'il faudrait faire la même chose en Occident, on préserverait mieux la nature. J'entends, en tous les cas, il est sûr que ça lui donne, d'un point de vue de l'éthique et d'un point de vue de la morale, une place qui est la place de supériorité, mais vous voyez comment on passerait d'un système de domination à un autre système de domination, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais une étudiante à Sciences Po qui avait fait un mémoire, qui était d'Amérique du Sud, montrant toutes les décisions de justice qui faisaient application de la constitution équatorienne, montrant bien que ce statut de personne à la nature n'était pas un statut qui faisait que tout projet d'exploitation, notamment d'exploitation minière, était interdit du fait de ce statut. C'est ce qu'on appelle le balancing, la balance des intérêts. C'est le droit, c'est ce qu'on appelle cet équilibre subtil entre des intérêts en présence, l'intérêt de la personne nature et l'intérêt des personnes humaines. Alors, Une fois, cela étant dit, eh bien, la thèse a été l'occasion, mais ensuite le législateur l'a fait, c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce code civil. Vous voyez comment c'est l'obsession statutaire qui bloquait le juge dans la réparation du préjudice écologique, comme s'il fallait absolument que la nature soit sujet droit pour qu'on répare son préjudice. Moi, ce qui m'est venu à l'esprit, en réalité, en essayant de regarder ce qui se passait aux États-Unis, système libéral où si tu perds, si tu gagnes seul, mais si tu perds seul. Nous, on a le système plus protectionniste en France, et si tu gagnes, ben, tu partages, et si tu perds, c'est la collectivité qui assume. Et c'est intéressant ce principe libéral qui est le principe qu'on appelle en économie du théorème de cause, où l'idée, c'est que même les pertes doivent être intégrées et payées par ceux qui en sont à l'origine. C'est ce qu'on appelle le principe pollueur-payeur. Le principe pollueur-payeur, c'est un principe libéral qui dit, attention, c'est pas à la collectivité de payer les conséquences d'une perte dont on est à l'origine, c'est à celui qui en est à l'origine et qui a commis une faute pour ça. Et donc, en insistant sur le devoir de réparer les pertes à l'environnement, parce que ce devoir existe, notamment dans un autre petit livre utile, qui est ici la Constitution française, dans laquelle on a la Charte de l'environnement, qui évoque le principe selon lequel toute personne, dans l'article 4, doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause. Vous voyez comment ce principe, qui est un principe qui existe depuis longtemps aussi en droit international, devait avoir des conséquences de la Constitution au Code civil, l'obligation de réparer les atteintes à la nature. Et le juge... Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la théorie du droit vivant, une théorie italienne. Le juge a fait évoluer sa jurisprudence dans l'affaire de l'Erika, a considéré que l'environnement devait être réparé. Les premiers juges ont considéré à hauteur d'1 million d'euros. Les seconds, la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, à hauteur de 10 millions d'euros. Ce n'est pas énorme, peut-être, mais c'est ce qu'on appelle une jurisprudence. C'est intéressant ensuite de voir que ce qu'ont fait les juges, par application de la théorie du droit vivant, j'ouvre une parenthèse pour dire que cette théorie s'oppose à la théorie de l'actuelle Cour suprême américaine qui s'appelle la théorie originaliste, cette théorie qui vaut que le droit que l'on doit appliquer à une époque est celui qui existait à l'époque des pères fondateurs. Ah oui, mais enfin, à l'époque du Code civil, vous voyez ce que ça donnait. Vous savez, l'inégalité homme-femme, le droit de puissance libérale, enfin... Et d'ailleurs, vous voyez les décisions de la Cour suprême américaine qui reviennent sur le droit à l'avortement. Donc, heureusement, en France, en Europe, nous avons cette théorie du droit vivant. Et une fois que les juges ont permis la réparation du préjudice écologique, quelque chose d'assez empirique, il fallait se demander, et c'est pour ça que un groupe de travail était constitué pour rédiger de nouveaux articles du Code civil. Donc ce code qui date de 1804 a été amendé en 2016 avec un chapitre spécifique sur la réparation du préjudice écologique, où là, il a fallu répondre à un certain nombre de questions. Qui peut demander réparation du préjudice écologique? Toute personne? Une personne qui a un intérêt, tout de même? Il faut toujours éviter en droit les excès. Qu'est-ce qu'un préjudice écologique? Comment on le répare? Et là... Je vous dirais juste, quand on a travaillé avec d'autres, évidemment, pas seul, à la rédaction de ces articles, personnellement, il faut bien avoir à l'esprit que c'est la force du droit des catastrophes. Ces articles, j'en parlais tout à l'heure à certains d'entre vous, ces articles ont été possibles parce qu'il y a eu la catastrophe de l'Erika, parce que des politiques de tous bords, on utilise beaucoup le terme transpartisan aujourd'hui, ont voulu ces articles parce qu'ils ont été touchés dans leur commune. Et ce qui me frappe, c'est que, à l'image du droit international de sauvetage en mer, qui a été créé à la suite de la catastrophe du Titanic, à l'image aussi de ce droit du préjudice écologique lié à la catastrophe de l'Erika, on a des articles modernes. Ce sont les articles les plus modernes dans le monde, dans le Code civil, pour réparer ce préjudice. D'autres n'ont pas réussi à le faire, aussi parce qu'ils n'ont pas eu ce contexte-là. Et il a fallu tenter d'organiser ce droit, et notamment dire qu'est-ce que l'on répare, une perte irréversible. Parce que, je citerai ici Malraux, dans les Conquérants, Malraux évoque ce caractère incommensurable. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. C'est devenu une chanson de Souchon ensuite. Et elle est très intéressante parce que ça me renvoie à tout ce que j'entends ici, cette valeur de patrimoine. Alors, dans le titre ici, on parle beaucoup de l'irréversible. Comment évaluer l'incommensurable? Et je peux vous dire que les opposants au préjudice écologique avaient un argument tout trouvé pour dire « Mais comment on va évaluer le prêt de la nature ? C'est inévaluable. » Et donc, comme c'est inévaluable, ne le prenons pas en compte et ne le réparons pas. Alors là, moi, ça me heurtait beaucoup, parce que j'utilisais beaucoup, quand on était auditionné à l'Assemblée nationale, l'argument suivant. Il y avait eu un chasseur qui avait tué un ours qui s'appelait l'ours cannelle dans les Pyrénées, qui était le dernier représentant de son espèce. Cet acte-là a entraîné la disparition d'une espèce, l'espèce d'ours de souche pyrénéenne. À l'époque, le préjudice écologique n'est pas réparé, mais les associations peuvent obtenir réparation de préjudice moral. Et je me souviens que l'affaire s'est terminée par 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la destruction et à la disparition de cette espèce. Et ce que je disais aux parlementaires, c'est que je dis, rendez-vous compte, donc, la disparition d'une espèce vaut autant qu'une smart, une voiture, la plus petite voiture, sans option accidentée. Alors là, ça faisait mouche, parce que c'est, bah oui, quand même, il y a quelque chose d'assez incongru. D'où un bon exemple, qui était l'exemple du raisonnement par analogie qu'on fait souvent en droit, qui est la réparation d'une autre valeur incommensurable, qui est celle de la vie, le préjudice corporel. On répare le préjudice corporel, alors qu'une vie, je perds un proche, je perds un bras, je perds un membre, ça n'a pas de valeur. Souvent, on dit, mais je ne veux pas d'argent, j'ai perdu un proche dans un accident ou à la suite d'une opération. Et oui, mais avec le temps, pour des raisons à la fois aussi expressives de dire que ça ne peut pas ne rien coûter, on a fixé des barèmes que, liés à l'invalidité ou à la capacité. On a aussi fixé des barèmes liés à la perte d'une vie. Est-ce que c'est frappant, choquant? En même temps, ça permet aussi de dire que la faute ne reste pas impunie. Voilà pour la réparation du préjudice écologique. Alors depuis, c'était 2016, depuis, des tribunaux spéciaux ont été créés en France, récemment, il y a 2 ans, avec des spécialistes, ils peuvent s'adjoindre des scientifiques pour établir ce que c'est que ce patrimoine environnemental. C'est encore un droit en construction, en fait, c'est pas simple, il n'y a pas de raz-de-marée devant les juges. Pourquoi? Parce que c'est très pointu, et puis qu'il n'y a pas tous les jours des catastrophes comme celle de l'Erika. En fait, il y a beaucoup, ce qui fait l'océan des préjudices écologiques, ce sont des petites pollutions. Des pollutions de l'air, des pollutions des sols et des eaux par des installations classées. Vous avez cette usine Lubrizol, par exemple, au nord de Paris. C'était question. Alors, une fois arrivé à cette question de la réparation du passé, venait cette idée où j'avais lu une phrase d'un rapport d'Interpol qui était, c'est la deuxième partie, que la criminalité environnementale, les trafics d'espèces, les trafics de déchets, c'était la quatrième criminalité organisée après les trafics de drogue, la contrefaçon, le trafic des êtres humains. Et ça rapportait beaucoup, mais ça coûtait peu en droit. Et vous voyez, c'était un autre levier, d'où cette idée de créer avec des journalistes. Là, c'est le chercheur qui s'appuie sur la force de la médiatisation pour obtenir une conscientisation de l'intérêt de la destruction de la planète avec quelque chose qui pouvait être assez anecdotique quand même par rapport à toutes les destructions environnementales légales. C'est ça qui est intéressant. Mais le légal, si vous voulez, interpelle peu nos sociétés. Alors qu'une destruction illégale, des crimes organisés et des criminalités croisées par des terroristes, par exemple, voilà ce qui pouvait intéresser. D'où le groupe Écocide. Nous avions rendu un rapport au ministre de la Justice et une série dans Le Monde Écocide était née. Ce qui m'intéresse avec cette question de l'écocide, Oikos, la maison, Kaedere, c'est tuer la maison. C'est cette idée selon laquelle il faut envisager une responsabilité tournée vers le futur et ne même pas se permettre, s'autoriser que l'écocide survienne. Quelle est la force de l'incrimination de génocide à la suite des jugements de Nuremberg? C'est la valeur expressive du droit pénal. C'est qu'en creux, le droit pénal montre l'interdit absolu qui portait atteinte à la dignité humaine. Et le fait de le nommer, c'est essentiel. Ça me fait penser aussi que quand des scientifiques ont annoncé qu'ils étaient capables de jouer avec le patrimoine génétique et notamment de créer des clones, on a créé le crime d'eugénisme. Il y a un crime d'eugénisme dans le code pénal. Et il y a un crime également qui est un crime de clonage reproductif, qui est un crime qui peut être prescriptible ou le crime imprescriptible, on part aussi du rapport du temps ici avec le droit, eh bien, ce crime existe alors qu'il n'a jamais eu à être appliqué. Mais le fait qu'il existe est essentiel pour montrer l'interdit d'une société. Alors l'écocide est à la fois transspécifique, il porte atteinte à la relation entre l'humain et le reste du vivant, transspatial parce que global, des atteintes à l'environnement, comme par exemple en Ukraine, le barrage de Krakowka qui entraîne cette rupture du barrage avec des dommages qui touchent ensuite les pays avoisinants. Il est transgénérationnel parce que les générations futures qui sont sur place vont avoir des conséquences sur la pollution des sols et des eaux, et j'en passe. Et donc cette idée d'écocide pourrait être un nouveau crime international qui serait consacré notamment en marge du statut de la Cour pénale internationale et en fait serait la prolongation de la multiplication des droits de l'homme à l'environnement. Vous entendez beaucoup parler d'affaires en justice dans tous les pays, d'affaires climatiques. La Cour européenne des droits de l'homme récemment a rendu une affaire à propos des aînés suisses, des femmes suisses qui avaient poursuivi leur pays parce que l'ambition du pays était insuffisante. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le droit de l'homme n'est plus un droit seulement anthropocentré. Les droits de l'homme sont des droits, et l'humanisme juridique, les droits de l'homme s'étendent à la prise en compte de nos relations avec la nature. On pourrait trouver que ce n'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup. On peut faire encore plus. Mais en l'état, il y a de plus en plus d'utilisation de ces droits de l'homme. Le Conseil constitutionnel, notamment, s'est appuyé en France sur la Constitution pour déclarer que le patrimoine commun des êtres humains qu'est l'environnement nécessite que ceux qui font les lois prennent en compte ce patrimoine commun des êtres humains et le prennent en compte également vis-à-vis des générations futures. Aujourd'hui, quand une loi est votée au Parlement, elle doit vérifier que l'environnement est protégé non seulement ici, mais aussi ailleurs. Je m'explique, il est interdit d'exporter des produits qui seraient interdits en France, mais autorisés en Afrique, par exemple, parce que moins cher, parce que l'environnement est un patrimoine commun. Et donc ça, c'est une protection qui est une protection extraterritoriale. Et puis aussi la protection des générations futures qui doit être appréhendée parce que c'est notre obligation. Vous voyez ici comment, en fait, les crimes les plus graves à l'échelle internationale, ce sont les crimes contre l'humanité, s'étendent à ce que on peut appeler un crime contre l'habitabilité. Il est important de savoir quelle est cette valeur protégée. Alors je veux juste, parce que nommer, c'est normer, mais comme disait Camus, vous citiez Diderot tout à l'heure, mal nommer les choses est à ajouter au malheur du monde. Attention à ne pas utiliser ce terme ou à le dévoyer. Parce que si nous sommes tous écocidaires, personne ne l'est. L'écocide est vraiment l'atteinte grave et irréversible, consciente, causée à l'environnement et qui ne permet pas l'habitabilité de la planète. Donc la Cour pénale internationale, je terminerai là-dessus, a notamment proposé de créer au sein de sa Cour une cellule spécialisée d'enquête sur les crimes qu'elle ne peut pas appeler écocide parce que dans son statut, il est question de crimes contre l'humanité. Mais il y a un système d'enquête spécifique, notamment du fait de la guerre en Ukraine. Mais il y a eu d'autres faits comme la déforestation, l'appropriation de terres. Ce qu'on appelle le land grabbing, l'appropriation de terres et le vol de terres à des sociétés autochtones. Certains vont appeler ça un ethnocide, un patrimonicide. Là aussi, c'est juste pour vous dire que parfois on se dit que le droit ne fait pas assez. Mais aujourd'hui, quand je rencontre des défenseurs de l'environnement, ils me disent notre seul recours aujourd'hui, ce sont les tribunaux. Donc, dans vos activités respectives, vous verrez le droit comme du droit de policy, du droit de réglementation, comme étant quelque chose d'un peu barbant, souvent, parce que les normes peuvent être lourdes à appliquer, mais les normes, c'est aussi une chance. Et je voudrais simplement vous dire que sur la réparation et sur la prévention des pertes irréversibles, eh bien, le droit est une chance et un levier, et je vous encourage à y être attentive. Voilà.
Ces interventions. On laisse alors la parole pour qui on a des questions. Donc,
une question là.
Pour qui veut intervenir ?
Une dame là-bas.
Bonjour, Camille Bertrand-Hardy, je suis élève conservatrice du patrimoine. Monsieur Néret, vous avez cité Baptiste Morisot qui a pensé le concept du vivant. C'était aussi un terme du titre de votre thèse. Aussi, je voudrais vous poser cette question. Comment, d'un point de vue juridique, peut-on penser le vivant qui n'est ni vraiment objet, ni vraiment sujet, mais bien plutôt pris dans des relations écosystémiques ? Oui.
Écoutez, cet enjeu-là part d'un a priori qui est aussi l'a priori qu'il n'est pas forcément nécessaire de définir en droit de manière précise. Et donc, vous l'avez dit, finalement, le vivant, ce sont les écosystèmes, les fonctions des écosystèmes et les relations entre elles et entre eux. Et alors, de tout temps, le droit a pu faire sans définir précisément. Si je dis ça, c'est que je rebondis en fait, parce que j'entends dans votre question les réactions de juristes traditionnalistes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les plus allants, et qui pourraient dire, comme ce n'est pas définissable, ça doit rester en dehors du droit. Pourquoi ? Parce que le droit a besoin de sécurité. Mais ce qu'on apprend en première année de droit, par exemple, c'est que la coutume, c'est une source du droit, ce qu'on appelle le droit coutumier. Oui, mais on apprend aussi aux étudiants que la coutume, c'est une pratique, qui s'est reproduite avec le temps, mais on ne peut pas dater le moment où on saute d'une règle, qui est une règle commune, à une règle coutumière obligatoire. Il n'y a pas un saut dans le temps daté à tel moment précis. Et donc, ce que j'évoque souvent, c'est que, de la même manière que la personne n'est pas définie si précisément, c'est pour ça que la dignité humaine, par exemple, avec le temps, a pu s'appliquer non seulement à une personne née vivant et viable jusqu'à sa mort cérébrale, mais aussi à ses cendres, c'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel il y a peu de temps. La dignité humaine est aussi liée à l'image de la personne décédée, affaire Erignac, par exemple, le préfet Erignac est assassiné, une photo de lui est prise, on diffuse cette photo, on a considéré que c'était une atteinte à la dignité de la personne, alors qu'elle est morte, et normalement la personne prend fin avec la mort cérébrale. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet de faire des prélèvements d'organes. Sinon, ce serait du vol, ou ce serait une atteinte à une personne, ce n'est pas acceptable. Et idem, de la même manière, en amont de la personnalité juridique, toute expérimentation sur des embryons doit respecter un certain nombre de règles. S'il y a des abus, il y a sanction, parce que cette dignité est une dignité aux marges de la vie. Donc, moi, je crois que c'est complexe et c'est compliqué, mais le parallèle que j'ai beaucoup utilisé, alors de manière un peu maligne et intéressée, de la vie humaine, est un parallèle qui fonctionne assez bien. Alors, je vous concède avec quelques limites, parce que le vivant humain n'est pas borné de la même manière qu'une vie humaine. Une vie humaine, c'est la fécondation jusqu'à la mort. Ce qui veut dire aussi que pour l'évaluation du préjudice corporel, on a une borne qui est dans le temps. Le vivant humain, lui, le vivant, pardon, de manière globale, a une dimension internationale, nécessairement. Et puis, il n'y a pas de frontières. Par exemple, on n'a pas de frontières, il n'y a pas de douaniers pour arrêter les émissions de gaz à effet de serre. De la même manière que les atteintes d'aujourd'hui produisent des effets dans le futur, qui est un futur qu'on ne peut pas tout à fait envisager très clairement. Donc, c'est ce qu'on peut appeler un changement de paradigme, mais pour autant, ce n'est pas une révolution de l'ordre de l'impossible. C'est la raison pour laquelle il faut avancer subtilement, avec modestie. C'est pourquoi parfois l'enfer est teinté de bonnes intentions. Quand j'entends certains, de manière véhémente, qui disent « il faut absolument dire que le vivant est sujet de droit, sinon nous commettons toutes des écocides ». C'est que dire ça, en fait, ça mène à beaucoup d'opposition. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas avancer le droit. C'est pour ça que les décisions de justice, je vous encourage tous à lire un résumé de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, rendue le mois dernier, à propos de l'affaire des aînés suisses. Parce que clairement, elle utilise le mot patrimoine, génération future, l'environnement, les relations entre les générations. Et elle montre comment le droit peut, par application de cette théorie du droit vivant, intégrer cette réalité qui est une réalité qui peut être une forme d'impensé. Voilà quelques éléments de réponse.
Alors, j'ai une question, je ne suis pas sûre qu'elle sera très très claire, mais je vous préviens. Donc, c'est pour faire un peu le lien entre vos deux communications, entre l'aspect ruine, donc vestiges archéologiques, et on sait que la nature reprend toujours ses droits, c'est le cas de le dire. Donc j'ai en tête des exemples de sites archéologiques qui se font souvent réenfouir par la nature, enfin voilà. Et souvent il y a des espèces protégées des fois qui s'implantent sur ces sites archéologiques. Il y a des questions qui sont ensuite posées pour pouvoir remettre ces sites en valeur, pouvoir les préserver, mais comment concilier justement ces enjeux environnementaux et conserver le droit du patrimoine, la préservation des espèces, face à la préservation de sites, de vestiges patrimoniaux en présence?
Si on laisse toutes les ruines, je dirais, on les considère comme des réserves, alors à terme, il n'y aura plus d'espace pour les vivants. Donc votre question est là au cœur de cet équilibre entre passé et présent. Et regardez en archéologie préventive, 98%, 95% des interventions débouchent sur un démontage des niveaux. On ne garde en place que des sites qui sont rares, d'une part, pour des raisons archéologiques ou autres, et qui sont aussi susceptibles d'être mis en valeur. Mais cela nous convoque une réflexion sur le soutenable et le non soutenable, parce que nous savons très bien, par exemple, que un certain nombre de sites encore aujourd'hui visibles, même si on investit des ressources considérables, ne le sont plus. Et c'est pourquoi la parabole du pied du Christ me paraissait intéressante, c'est-à-dire que la protection du patrimoine doit envisager le rapport entre le coût et la qualité de vie qui en découle. Comment, par exemple, dans des pays comme la Scandinavie, au nord de la Suède ou de la Norvège, la protection des sites mégalithiques est encore très efficace et elle repose sur des bénévoles qui, un peu comme nos sentiers de randonnée, s'occupe des sentiers archéologiques. Alors qu'en France, en Italie, en Grèce, on hésite à, en quelque sorte, isoler un site archéologique du reste parce que cela conduit à une espèce de dévalorisation. Le site est mis de côté et puis vous voyez que plus personne n'y entre, on y jette des déchets. J'ai rappelé un certain nombre de textes très anciens où le sentiment de la perte s'énonçait, c'était bien pour dire que la ruine est un équilibre entre la mémoire et l'oubli, entre le matériel et l'immatériel, et la nature et la culture. Qu'est-ce qui est tout à l'heure le débat sur les parcs archéologiques et les parcs environnementaux étaient très présents. Et en entendant la discussion, je pensais que la définition que donnent les premiers présidents des États-Unis, les Américains, de ce qu'est un parc est très différente de celle que nous utilisons en France ou même en Italie. Et donc, il faut réfléchir à ces variété d'une part, et à cette idée que toute intervention sur l'environnement, elle a des conséquences à la fois positives et négatives, et qu'un peu comme le médecin qui calcule le profit de l'utilisation d'un médicament et la gêne qu'il peut produire, eh bien, le travail des conservateurs du patrimoine, il est de se situer à cette jointure difficile entre ce qui est préservable, ce qui ne l'est pas, ce qui relève du dépôt, ce qui relève de la présentation au musée. Et vous savez que ce qui a longtemps freiné l'archéologie en France, c'est justement qu'il n'y ait pas une chaîne continue qui commençait sur le terrain, qui se continuait dans les dépôts pour l'analyse des données et qui finissait au musée. Alors qu'en Italie, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, où cette chaîne était assurée, bien l'archéologie se portait beaucoup mieux.
Il y a trois éléments de réponse. Bref, le premier, c'est le fait qu'on a un adage latin en droit qui est le suivant, « De minimis non curat praetor ». Les petites affaires, les petits tracas n'ont pas à être traités par le droit. C'est tout à fait intéressant parce que remarquable en matière environnementale. Qu'est-ce qui va être un préjudice à l'environnement acceptable ? Parce qu'évidemment, en réalité, moi je suis spécialiste de droit privé, pas de droit, parce que le droit de l'environnement, normalement, c'est la chose publique. L'environnement est la chose publique, et donc c'est plutôt rare de faire du droit privé et de l'environnement. Mais en fait, comme c'est transversal, ça touche toutes les couches. Pourquoi, en matière administrative, quand vous prenez le code de l'environnement, alors là, si vous avez des insomnies, je vous le conseille, là, vous assommez un bon coup, c'est un droit de la régulation. Ce sont, en fait, le droit de l'environnement, toutes les lois des années 70-76. C'est un droit de l'autorisation de la pollution. On autorise à certains seuils. Vous voyez ? Je ne suis pas là, ce n'est pas de la provocation, c'est une réalité, mais ça heurte, en fait, on se dit. Ce n'est pas un droit de la protection, d'une espèce de nature sous cloche. C'est un droit de l'autorisation. Autoriser les activités humaines à détruire, mais dans une proportion qui nous semble acceptable. Donc ça, c'est un choix politique et social. Pourquoi je vous parle de ce côté acceptable ? Parce que, par exemple, certains projets seront autorisés. Ils seront autorisés... Je me souviens, par exemple, là, un entrepôt géant dans le sud de la France pour Ikea. Cet entrepôt va être autorisé et on va alors faire un inventaire. Alors vous avez, j'ai bien aimé cette expression, l'archéologie préventive, mais vous allez aussi avoir ce qu'on appelle l'étude d'impact. On va évaluer la biodiversité présente et se demander si une atteinte irréversible va lui être causée. Donc dans ce cadre-là, il y avait une atteinte à une espèce protégée qui était une fleur. La question est de savoir si cette fleur va l'emporter sur le projet économique. Parfois, je me souviens aussi d'une amie qui était juriste qui s'occupait de la question du désensablement du Mont-Saint-Michel. Ils ont, avant de commencer les opérations... récolter des pélodites, c'est-à-dire une sorte de crapaud spécial dans des seaux. Ils les ont emmenés un peu plus loin pour voir s'ils se reproduisaient. Ils ont donc attendu un an pour observer si ce crapaud pouvait vivre d'une bonne manière. Alors certains pourraient rire, et je fais exprès, je suis un peu provocateur, mais parfois il y a des projets aux États-Unis qui ont pu être bloqués, ou même des constructions de portions d'autoroute bloquées, parce que sinon, de manière irréversible, ils apporteraient atteinte à une espèce que l'on ne peut pas reproduire ailleurs. Et quand le préjudice est acceptable, c'est là qu'il peut y avoir des polémiques et des discussions. Il est acceptable parce que le droit accepte la notion de compensation. La compensation peut être variable. Ça peut être replanter la même chose ailleurs, dans un autre écosystème. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, vous avez souvent entendu... Il y a des films là-dessus, parce qu'il y a de la criminalité organisée, sur ce qu'on appelle les permis de polluer, les quotas de gaz à effet de serre. Ces quotas de gaz à effet de serre sont des quotas donnés à des industriels, et en plus, ils peuvent les revendre sur le marché. Et il y a eu des trafics à la taxe carbone. Il y a un film qui s'appelle Carbone, il y a même une série, je vous invite à voir ça, parce que c'est très intéressant de voir comment le droit a été manipulé. Et ça, c'est pour les gaz à effet de serre. Ça existe aussi pour la biodiversité, ce qu'on appelle des unités de biodiversité. Il y a des entreprises, une branche de la Caisse des dépôts et consignations, qui, par exemple, dans le sud, dans la plaine de la Croix, a racheté un ancien verger et les a réensauvagés. C'est-à-dire que le verger, alors en question de biodiversité, niveau zéro de la mer, mais ils l'ont réensauvagé pour recréer de la biodiversité. Et cette biodiversité créée a créé une fiction juridique sous forme d'un patrimoine écologique qui peut être échangeable sur un marché. Et donc, mon monsieur Ikea va pouvoir compenser sa virginité, il veut dire verte, pour se la racheter, et en achetant des unités. C'est-à-dire qu'ensuite, la société va réinvestir pour créer de la biodiversité davantage. C'est ça qui peut être critiqué d'une certaine manière. Parce que, je ne sais pas, le fait de permettre à des libellules de s'épanouir de la peine de l'accro, est-ce que ça va être équivalent à la destruction d'une fleur qui se trouve plus loin ? Et là, c'est une autre affaire. Deuxième question, deuxième point, donc là, pour ces pertes compensées, c'est comment définir en droit l'acceptable ou l'inacceptable. Et quand on rédigeait les articles du Code civil, il y avait cette question, le préjudice écologique, il est défini. à l'article 1247 du Code civil comme étant une atteinte non négligeable aux éléments, aux fonctions des écosystèmes et aux bénéfices tirés par l'homme de l'environnement. Une atteinte non négligeable. Moi, à titre personnel, j'étais contre un adjectif. Est-ce qu'en droit, on précise que l'atteinte doit être négligeable, non négligeable, et surtout, moi, je ne sais pas le définir. Mais alors, c'est pour vous montrer aussi la force de la politique. Je me souviens de ma grande amie Mireille Delmas-Marty, dont je vous invite à lire tous ses ouvrages sur ces questions, qui était professeure au Collège de France et membre de l'Académie. Mireille me disait, vous savez, quand on est juriste et quand on est chercheur, il ne faut pas penser qu'au purisme et à la pureté d'un texte. Il faut voir aussi la force politique, et la force de la politique, c'est un compromis. Et alors, dans les différentes commissions auxquelles on appartenait, certains membres de la commission, c'était les représentants des entreprises, avaient voulu qu'on rédige le texte initialement en disant une atteinte grave. Alors, atteinte grave, c'est sacrément grave. Ça veut vraiment dire, là, pour le coup, vous ne réparez pas grand-chose. Parce que dans le droit, quand on qualifie de grave, on peut vous dire que beaucoup de choses passent à la trappe. Bref, c'est ce qu'il avait emporté. Mais devant l'Assemblée nationale, je me souviens, m'auditionne et me dit, alors, M. Néré, ben, je dis, moi, je suis contre un adjectif, donc je suis favorable à le supprimer. Mais ils me disent, oui, mais quand même, le Sénat voudrait grave, mais nous, grave, nous sommes trop graves. Alors, je leur dis, vous savez, on a ce qu'on appelle, vous connaissez ça en droit, la théorie dite des troubles anormaux du voisinage. Bon, alors je dis, vous savez, les troubles anormaux du voisinage, vous pouvez peut-être mettre le terme anormal, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais anormal a l'air d'être un peu moins grave que grave. Alors là encore, elle me dit, mais non, monsieur le professeur, anormal, c'est encore trop grave. Bon, et vous savez comme quoi ça tient à pas grand-chose. Je me souviens du juge dans l'affaire de l'Erika qui avait dit, bon, les atteintes à l'environnement ici qui ont été constatées étaient des atteintes non négligeables. Aussi pour répondre par anticipation à une critique qui serait de dire, ah, mais alors mon brave monsieur, ce matin j'ai pris mon vélo, pourtant vous voyez, et puis j'ai écrasé des insectes et donc je peux être poursuivi pour préjudice écologique du fait de la pratique du vélo. Enfin, vous voyez, on marche sur la tête, c'est une histoire de fou. Eh bien, vous voyez comment non négligeable est rentré ici dans le droit juste pour des raisons d'équilibre politique, pour sentir quand même que, attention, vivre, c'est porter atteinte à la nature, mais pourtant, on ne peut pas aller devant un tribunal pour toutes ces atteintes. Alors, vous disiez aussi, la nature reprend ses droits. Et oui, mais avant qu'elle reprenne ses droits, le préjudice a existé, et il faut aussi le prendre en compte. Je terminerai sur un point, qui est ce point-là, dans toutes les affaires que l'on observe, le mieux connaître le patrimoine environnemental, c'est mieux le protéger et mieux le réparer. Alors vous, ça fait partie, c'est pour ça que j'ai accepté d'être là, évidemment, sous ces inventaires, et pour être dans des bâtiments magnifiques au Palais Royal, et pour avoir la chance d'avoir du mobilier national, des œuvres également présentes. Heureusement qu'il y a un inventaire, parce qu'il y a une époque, si vous voulez, quand les cabinets passaient et partaient, ils ne partaient pas tout seuls. Vous voyez, la petite statuette ou la jolie horloge, elle serait bien aussi sur ma cheminée. Bref, caricature, mais tout de même, bien connaître et bien inventorier, ça permet, le jour où il y a un coup de torchon, le jour où il y a un trouble ou un dommage, de mieux protéger, d'avoir une réactivité sur la manière de prendre en compte ce préjudice. Par exemple, et dans ces affaires de pollution, c'est d'être capable, par exemple, de prélever un certain nombre d'éléments de biodiversité pour aller les protéger ailleurs, peut-être, et les réintroduire ensuite. Donc je voulais profiter de ce que pour vous, ça fait partie de cet ADN, mais que dans les sciences de l'environnement et du vivant à l'échelle locale, ces inventaires sont parfois partiels sûrement, parce que c'est souvent les entreprises qui payent les inventaires des environnements qui les environnent, qui les entourent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations. Par exemple, vous savez que le préjudice écologique a été reconnu dans l'affaire de l'Erika. Il y avait une seule association qui le demandait au début. Et elles se battaient entre elles. Elles en voulaient à la Ligue de protection des oiseaux. C'est la LPO qui fait un inventaire très précis et qui voulait la réparation de préjudice. Et je me souviens, la plus grande menace que j'ai reçue, et pas celle de Total quand je proposais ces réparations, c'était celle d'une association de protection de l'environnement. On me disait, vous allez siphonner les dommages et intérêts qu'on obtient pour préjudice moral, parce que si le juge donne à la nature, il ne nous donnera plus à nous pour préjudice moral. Bon, bah, beaucoup de choses étaient dites. Ce qui vous montre bien que le manichéisme dans cette affaire n'existe pas.
Moi, je poserais une question, s'il n'y en a pas d'autres. Je voulais aborder la question du moment où les ruines peuvent constituer elles-mêmes une atteinte à l'environnement. notamment dans la question de la pollution de l'espace extra-atmosphérique pardon, par les débris spatiaux. Et je voulais notamment demander au professeur Schnapp quelle place ces débris pourraient avoir dans la réflexion universelle des ruines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas évidemment une interaction entre nature au sens où vous l'avez décrit, parce que dans les vides... Et de l'autre côté, je demanderai au professeur Néré comment on peut concevoir cette pollution, vu qu'il ne s'agit pas d'une dégradation, mais d'un encombrement. Et est-ce qu'il y a une habitabilité qui doit être protégée dans le vide extra-atmosphérique ?
Alors, ben, c'est toujours une question d'équilibre. Avant, il y a les ruines, bien sûr, mais il y a les décombres aussi. Ça, vous venez d'employer le terme, ce sont des décombres. Ils pourraient devenir des ruines si l'exploration de l'espace se développait et on organisait des genres d'urbnets pour voir cela, mais on en est encore loin. Mais vous posez une question décisive, c'est-à-dire que les champs de compétences patrimoniaux ne cessent de s'élargir. Et je pense que pour éviter que l'espace soit pollué, et de plus en plus, il faudrait une convention internationale comme celle pour les pôles qui interdit des activités industrielles au pôle sud. Et donc, il y a eu pendant un certain temps une espèce de réserve des grandes puissances vis-à-vis justement de la colonisation de l'espace. Et là, on y va directement avec l'idée de station sur la Lune et surtout, comme vous venez de le dire, tous ces engins qui ne sont pas réutilisables, qui continuent à tourner autour de la Terre et qui immanquablement créeront des accidents. Donc on est exactement à la fois au cœur épistémologique de la distinction entre ce qui est ruine et ce qui ne l'est pas, et au cœur juridique dont Laurent Néré va nous parler.
Oui, en deux minutes, c'est drôle parce que quand j'étais en thèse, je me souviens d'un matin où on nous appelle en urgence en nous disant ben, des gens de l'agence spatiale européennes sont là cet après-midi et ils sont là pour distribuer des financements. Il faut leur proposer des choses sur la question de la pollution de l'espace. Alors autant dire que je ne connaissais absolument rien. Alors j'ai parlé de préjudice écologique extra-atmosphérique, enfin, des élucubrations. Et en réalité, en travaillant pendant quelques heures, ce qui est intéressant aussi, c'est, je voudrais vous dire ça du fait de l'expérience, être chercheur ou dans nos métiers, de se laisser happer par une actualité qui peut être la première ensuite de cas plus fréquents. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que j'ai constaté que l'atmosphère devenait un vrai cimetière. On parle même d'orbite cimetière, parce que ramener sur la planète des éléments de station Mir, mais ça, c'était plus votre époque, ou aussi des satellites, ça coûte cher. Donc, que fait-on ? On les met dans ces lieux cimetières, ou alors, parfois, on les détruit. Mais alors, la destruction fait que les déchets ne vont pas au fond de la mer. Imaginez que, sur la surface de la mer, vous ayez tous les navires échoués et les restes de ces navires qui flottent. Vous vous rendez compte de ce que serait la circulation. Et je me souviens très bien de ceux qui parlaient de ce qu'un débris, il y a des millions, plus, je crois 200 millions de débris qui sont en plus nommés, qui sont pistés et les agences les suivent dans l'espace. Si un de ces débris transperce la combinaison d'un spationaute quand Thomas Pesquet est en train de faire soit ses photos, soit de réparer la station, bah c'est problématique. Et c'est problématique également si un de ces débris porte atteinte à un système d'observation, soit pour la sécurité, si c'est à l'autre. Alors, une fois qu'on a dit ça, le point de départ, c'est qu'il y a un traité du droit de l'espace. Le traité du droit de l'espace, d'ailleurs, c'est intéressant pour le patrimoine, parce que vous savez que l'Antarctique est patrimoine d'humanité, mais l'espace extra-atmosphérique et les autres corps célestes sont qualifiés aussi de patrimoine commun de l'humanité. Ce qui est tout à fait intéressant dans ce traité de l'espace, dans les années 50-60, c'est que ça signifie personne ne peut se l'approprier. Enfin bon, on se souvient que des Américains qui avaient quand même planté le drapeau, ça semblait un peu aussi 1492, mais une autre époque. Toujours est-il que c'est inappropriable. Ce qu'on appelle le terraformage de l'espace, là aussi, semblait être interdit. Enfin, De la même manière que toutes les terres peuvent à un moment donné peut-être être colonisées, l'espace peut l'être aussi. Donc ce traité, une convention internationale, prévoit que les dommages qui seraient causés dans l'espace ou même sur Terre, parfois, je me souviens, il y a des troupeaux de vaches qui ont été tués par des morceaux de satellites qui sont tombés sur cela, c'est l'État de l'immatriculation du satellite qui est responsable. Bon, d'accord. La France est le seul pays dans les années 2010 à avoir voté une loi sur la responsabilité des opérateurs, parce que un opérateur d'un satellite doit répondre à un certain nombre de normes, et notamment si des dommages sont causés par les débris de son satellite ou ce satellite, engager sa responsabilité. Enfin, comme il n'y a que la France, alors que tout ça est international, c'est un peu problématique. Donc tout ça pour dire que ces patrimoines, l'espace est un patrimoine commun. Les satellites sont appropriés, il y a des propriétaires, mais comme l'espace est très lié aussi à des enjeux nationaux, c'est en fait beaucoup des responsabilités des États. Et pour l'instant, c'est quand même une zone grise parce que c'est vrai problématique. Mais se posera un jour la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas imposer qu'il n'y ait pas ces décharges ou ces ruines ? L'interdiction des ruines, parce que ce sera plus tenable là-haut.
Merci beaucoup. Bon. Il y a des questions.
Questions, là, je crois. Je crois qu'après, ouais. Ce sera l'heure.
Je dois partir.
Oui, bonjour. Ambre Tissot, doctorante en droit public à l'ISP. Je voulais revenir sur la question de l'incommensurabilité de la nature, parce qu'il me semble que c'est une caractéristique qu'elle partage avec la culture. Donc ma question serait, est-ce qu'on pourrait imaginer s'inspirer des méthodologies et des procédures qui existent maintenant en droit de l'environnement pour définir et évaluer un préjudice culturel ? Et subsidiairement, je voudrais savoir si vous avez des exemples de prise en considération de la dimension culturelle au sein de l'atteinte à l'environnement.
Alors c'est tout à fait intéressant ce que vous évoquez. On peut imaginer un trait d'union entre le proprement culturel, une œuvre d'art, un lieu patrimonial, et puis le proprement naturel, aller une forêt. Ce trait d'union, c'est le patrimoine culturel immatériel. La convention de l'UNESCO qui protège le patrimoine culturel immatériel le protège également quand ce patrimoine culturel immatériel relève de la biodiversité, des savoirs ancestraux autour du sacré lié à la nature. Alors, exemple. Je prends toujours les exemples du pire, parce que le patrimoine culturel, on n'a pas simplement une œuvre qui est altérée, comme on l'a vu récemment avec l'Origine du monde, où le musée pourra obtenir à la fois la restauration de l'œuvre, mais aussi réparation du préjudice moral. Parfois, c'est ce qu'on appelle le droit de l'auteur aussi. On est dans le moral. Et le moral, par rapport au culte, parfois, ça dépasse le moral dans le sens où c'est un préjudice collectif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dépasse l'individu, et même le créateur, pour être dans le collectif. En matière de crimes contre l'humanité, il faut savoir que des tribunaux spéciaux ont considéré notamment que la destruction dans la guerre Serbie, notamment, la destruction de... je crois que c'était une église, a été considérée comme étant une atteinte au patrimoine caractéristique d'un crime contre l'humanité. Mémorial tombeau aussi à Tombouctou ont été considérés comme patrimoine commun de l'humanité. Et donc, il ne faut pas alors voir la réparation au sens de l'argent. C'est le fait que c'est caractéristique d'une infraction. Donc, voilà comment, vous avez raison. Je dirais qu'il y a peut-être une influence croisée. Parce que cette question, on me l'a posée à l'inverse. Avant que, par exemple, les atteintes à l'habitabilité puissent devenir un écocide, on me disait, mais regardez, à partir du moment où le crime contre l'humanité n'est pas seulement la destruction ou l'avilissement d'une population humaine, mais aussi l'atteinte à un patrimoine culturel, je ne sais plus si c'était une église ou une mosquée, pour tout vous dire, dans la guerre en ex-Yougoslavie, ou bien dans les fameux tombeaux dont on parlait, pourquoi pas l'imaginer pour un patrimoine naturel ? Donc ça marche dans les deux cas, parce que ça relève du collectif, ça relève du commun, commons évidemment, et ça relève, comme vous le dites, de l'incommensurable. Mais ça suppose, pour que le droit passe, de dépasser l'idée que la réparation, et ça on a beaucoup à apprendre de populations ancestrales, ou autochtones, la réparation ne doit pas être seulement envisagée comme de l'argent. Je me souviens en Nouvelle-Calédonie, je terminerai ici, en Nouvelle-Calédonie, c'était pas un procès, mais c'était une transaction entre une société d'exploitation de nickel et les populations kanak, autochtones, qui avaient considéré que l'exploitation qui avait entraîné des fuites de produits chimiques dans le lagon et porté atteinte à des figures ancestrales et sacrées, des figures liées aux requins, par exemple, et puis il y a aussi la destruction d'une partie de la pollution de la forêt, la réparation portait par une réparation de l'ordre du sacré, avec le fait d'ériger un totem, le fait de construire une maison de la culture kanak sur une durée de 30 ans pendant laquelle la culture pourrait passer. Et ça me fait penser à un discours en préparation là. J'ai beaucoup aimé ce que vous évoquiez sur la mémoire, l'oubli. Vous savez que le 10 juillet 1940, 80 parlementaires ont refusé de voter les pleins pouvoirs au régime de Pétain. Voilà, donc je dois préparer un discours sur cette question. Et donc ça m'intéressait beaucoup. Et donc je retrouvais Simone Veil qui disait « Je n'aime pas l'expression « devoir de mémoire ». En revanche, nous avons un devoir d'éduquer sur le passé pour mieux comprendre le présent. » Et je trouve que dans ce qu'on est en train de se dire, la question de l'éducation, dans la forme de réparation, peut-être quelque chose de stimulant et d'intéressant. Et donc, on est là pour ça.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a terminé le temps, donc on va arrêter cette session. Et je vous remercie beaucoup encore pour vos interventions. Merci. Et merci à vous.